France Culture.
Sommes-nous condamnés à subir la guerre commerciale engagée par Donald Trump ? Côté américain, depuis la semaine dernière, les importations d'acier et d'aluminium sont taxées à hauteur de 25%. Réaction européenne, l'Union appliquerait à partir du 1er avril des droits de douane forts mais proportionnés sur des produits américains. En retour, Trump menace de droits de douane à 200% les champagnes et les vins français ainsi que ceux de l'Union européenne si et seulement si les Européens maintiennent leur projet de taxe sur les whiskies américains. Dans cette course, dans cette guerre même, l'Europe peut-elle donc adopter une stratégie cohérente, une stratégie coordonnée ? A-t-elle même les moyens de faire plier Donald Trump ? Pour en débattre, deux invités ce soir. Shane Vallée, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en économie politique au Conseil allemand des relations étrangères. Vous êtes ancien conseiller du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et vous êtes ancien conseiller également du ministre de l'économie. C'était alors Emmanuel Macron. Et vous venez de faire paraître dans la bien belle revue Le Grand Continent cette note intitulée « Comment l'Europe peut-elle faire plier Trump ? Note stratégique pour organiser la résistance ». C'est co-signé avec le député Renaissance, David Amiel. Face à vous, Christian Saint-Etienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes universitaire économiste et membre du Cercle des économistes, auteur de cet ouvrage intitulé « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale », un ouvrage qui a paru aux éditions Alpha en 2023. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Nous avons pris une décision. Nous l'annoncerons très bientôt et la taxe sera à hauteur de 25%. D'une manière générale, cela s'appliquera aux voitures et à tous les autres produits. L'Union européenne est un cas différent du Canada. Ils ont vraiment profité de nous, soyons honnêtes. L'Union européenne a été formée pour arnaquer les États-Unis. C'est son but. Et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président.
Les droits de douane sont des taxes. Ils sont mauvais pour les entreprises et pires pour les consommateurs. Ils perturbent les chaînes d'approvisionnement. Ils sont source d'incertitude pour l'économie. Des emplois sont en jeu. Les prix augmentent. Personne n'a besoin de cela. Ni dans l'Union européenne, ni aux États-Unis.
Dès l'instant que on se trouverait en situation d'échec dans le travail de négociation, alors il faudrait chercher d'autres mesures d'escalade. Et franchement, c'est pas à souhaiter. Mais s'il faut, il faut. Est-ce que je suis optimiste ? Pas forcément.
Avant d'entrer dans le détail de ces mesures d'escalade, pour citer le Premier ministre François Bayrou, je voudrais qu'on se concentre sur la philosophie de la riposte. Et je vous cite en premier lieu Shane Vallée dans cette note que vous co-signez. Vous écrivez « Économiquement, l'Europe a une carte à jouer, mais elle a trop souvent peur de sa propre force, restant le dernier défenseur impuissant d'un ordre commercial international libéral en pleine désagrégation ». Fin de citation. Alors, lorsqu'on observe effectivement ce qu'est l'Union européenne du point de vue économique, on constate une croissance atone, un sous-investissement en matière productive, un retard technologique flagrant, une dispersion doctrinale. Est-ce que vous ne pêchez pas un peu par optimisme lorsque vous parlez de forces évidentes de l'Union européenne ?
Non, je pense que les forces sont réelles, notamment et simplement le fait que l'Union européenne est le premier marché mondial et donc on peut jouer de ne serait-ce que de cet effet de taille pour peser dans la marche du monde économique et pour peser sur les choix américains. Je pense qu'on est tenu par contre par une logique dont on est peut-être toujours prisonnier, qui est cette logique de l'ordre multilatéral international qu'on cherche à préserver à tout prix, notamment parce qu'on en est le produit, mais aussi parce que il a, bon an mal an, plutôt bien servi les intérêts européens jusqu'à présent. Et donc, ceci nous retient aujourd'hui parce que ceci nous place dans une position réactive face à l'administration Trump et nous impose, en tout cas, c'est ce que nous laisse penser la réaction européenne pour le moment, de répondre aux mesures douanières que prendrait Trump uniquement parce que l'OMC autorise ou encadre. Et c'est aujourd'hui ce qu'on qu'on a vu. Vous avez mentionné les tarifs douaniers qui ont été introduits sur l'acier et l'aluminium. On pourra en reparler plus en détail parce qu'en fait, ces tarifs douaniers étaient déjà annoncés, avaient déjà été introduits par Trump lors de son premier mandat, avaient été maintenus puis suspendus par Biden. Et on savait déjà depuis Biden qu'ils seraient réintroduits en mars. Donc il n'y a pas eu de très grandes nouveautés là. Mais ce qu'on savait aussi, mais ça avait déjà été écrit, que la réaction européenne à ces tarifs serait proportionnée et qu'elle serait d'imposer aux États-Unis un dommage de 1 dollar pour 1 dollar. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait et c'est exactement ce que l'OMC permet. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller plus loin que ça et qu'il faut prendre des mesures dissuasives préemptives.
Christian Saint-Etienne, lorsque vous lisez vous-même ces mots, hein, l'Europe a trop souvent peur de sa propre force, vous partagez ce constat ou vous dites il y a peut-être un semblant, un fond de naïveté dans ces mots ?
Il n'y a pas de naïveté. Alors nous sommes pas le premier marché mondial, nous sommes la première puissance commerciale mondiale, mais parce qu'en PIB les États-Unis sont devant nous. Mais il y a trois niveaux d'analyse. Pourquoi l'Europe est en difficulté, indépendamment du fait qu'elle a du mal, comme vous le disiez dans votre question, à se mettre en ordre de bataille parce qu'il y a des divergences idéologiques et autres. C'est d'abord face aux États-Unis. Les États-Unis ont créé l'ordre mondial après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un ordre commercial, politique, stratégique, militaire. Cet ordre mondial servait les intérêts des États-Unis, il n'y a aucune naïveté là-dedans, mais c'était ce qu'on appelle un ordre ouvert, c'est-à-dire que tout le monde avait sa part et on pouvait commercer librement, on pouvait voyager librement. Bien, il y avait des risques, bien sûr, attentats et autres, mais globalement, pendant 80 ans, on a eu un monde ouvert.
Sur le plan économique, c'est ce qu'on appelait en partie le consensus de Washington, notamment.
Oui, mais ça allait au-delà, oui, le consensus de Washington, c'était un peu autre chose. Le consensus de Washington, c'était que il fallait tout miser sur la compétitivité, bon, et puis sur un ordre libéral avec peu d'intervention publique. Bon, c'est pas forcément un résultant de l'ordre mis en place par les Américains. Et ce qui déstabilise les Européens, qui ont d'une certaine façon profité de cet ordre international américain, c'est que c'est le pays même qui a mis en place cet ordre qui le détruit. Alors Trump avait commencé dans son premier mandat, on est passé très vite là-dessus. Il y avait notamment, il faut savoir qu'en 2001, quand la Chine entre à l'OMC, elle entre sans signer un certain nombre de protocoles où elle aurait dû s'interdire de faire des subventions aux entreprises qui exportent pour casser les marchés d'autres pays, ou un autre protocole qui aurait dû ouvrir ses marchés publics. Bon, elle entre, elle déstabilise malgré tout beaucoup le système économique international. Et dans ce contexte, les États-Unis se mettent en position pour rester la première puissance mondiale, mais sous Biden et sous tous les autres présidents, les États-Unis s'appuient sur l'Europe, qui est leur grand allié. Et là, on a un président qui non seulement déstabilise l'ordre international, mais commence à cogner sur ses alliés avant même, au fond, jusqu'ici, bien sûr, il a mis des droits sur la Chine, mais finalement, il va rencontrer Xi bientôt, il a l'air très très heureux de le rencontrer très bientôt, il rêve de rencontrer Poutine, et alors les Européens, excusez-moi sur France Culture, ils les traitent comme de la merde, donc c'est un vrai...
On va dire qu'ils s'en trouvent marginalisés, plutôt.
Voilà, donc ça, c'est déjà un premier problème. Si vous voulez, c'est comme à l'église, le prêtre doit dire la messe et puis tout à coup il fait des choses totalement contraires à l'évangile ou dans une autre religion, au texte de la religion. Donc ça c'est un premier point. Et face à ça, les Européens qui, dans le cadre de la guerre face à l'Ukraine, s'étaient mis à se réarmer avec des armes américaines, découvrent que les F-35 peuvent être bloqués par les États-Unis si leur usage ne leur plaît pas. Donc on a une déstabilisation globale de l'univers dans lequel les Européens fonctionnaient, sans parler... Alors, je veux pas. Mais le dernier point, peut-être, c'est que ça nous plaise ou non, c'est l'Allemagne qui a pris le contrôle de l'Europe il y a 15 ans, du fait de l'affaiblissement français depuis un quart de siècle, lié à la désindustrialisation du pays, à l'affaiblissement de notre pays. Or, l'Allemagne, Elle était déjà déstabilisée par la guerre d'Ukraine, puisque le grand modèle allemand, c'était d'importer du gaz pas cher pour vendre des machines à la Chine. Or, la Chine fait des machines et des voitures aussi bonnes que les Allemands aujourd'hui, et le prix de l'énergie a explosé. Donc, il y a une double déstabilisation, c'est-à-dire que le pays protecteur devient le pays disrupteur. L'Allemagne, qui conduisait l'Europe, est en panade. Donc, c'est dans ce contexte que, face aux attaques de Trump sur le plan commercial, il faut mettre en place une stratégie, une réponse européenne, mais qui doit répondre pas seulement aux droits de douane, mais qui, d'une certaine façon, et là, l'Europe est en réflexion, essaye de se substituer ou de contrebalancer le grand disrupteur qui veut casser l'ordre international. Donc c'est à plusieurs niveaux et c'est ça qui complexifie les choses.
Et j'ajoute peut-être un élément de complexité pour l'Europe, hein, depuis sa création, depuis la création de l'Union, le commerce, le doux commerce a toujours servi, j'allais dire, à pacifier les relations entre les États membres. Or aujourd'hui, quand on lit votre note, Shane Vallée, ce qui m'a frappé, l'une des choses plutôt qui m'a frappé, c'est le langage guerrier. Vous parlez de protectionnisme, de dissuasion, d'arsenal de mesures, de frappes économiques, de contre-offensives. Est-ce qu'intellectuellement, philosophiquement même, l'Europe est prête à cette bascule, à tomber dans la guerre économique ?
Elle n'y est pas préparée historiquement, parce qu'en effet, elle a toujours vu la question économique et la question commerciale comme un facteur de paix plutôt que utiliser le langage du conflit et de la guerre. Mais je pense qu'il y a un basculement qui est en train de s'opérer, qui s'est peut-être opéré de manière plus évidente, et je parle peut-être d'une perspective allemande parce que j'y passe beaucoup de temps, au moment de la visite du vice-président américain J.D. Vance à Munich, pendant la conférence sur la sécurité de Munich, qui est un moment pour les questions géostratégiques très, très important, et qui a été, je pense, un véritable électrochoc dans l'establishment politique allemand, parce que ils ont vu... Ils avaient entendu les propos de Musk, qu'ils avaient un petit peu marginalisé, vu comme les propos d'un bouffon sous kétamine, pour utiliser l'expression du sénateur Maluré. Mais ils pensaient que l'establishment américain, républicain, resterait plus sérieux. Et je pense d'entendre J.D. Vance attaquer de manière très frontale l'Union européenne et l'Allemagne, et soutenir de manière sans équivoque Alice Weidel et l'AFD, a été vraiment un électrochoc très, très puissant, et a mené à une prise de position de Merz le soir de son élection, qui est assez historique, où il dit deux choses qui, pour un chancelier ou un chancelier à venir, sont vraiment mémorables. D'une part, l'Union européenne doit se préparer à se frayer un chemin indépendant de celui des États-Unis, puisque jamais un chancelier allemand n'a dit ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Et deuxièmement, il faut que l'Allemagne soit prête à vivre sans l'OTAN. Et donc, dire ces deux choses-là, pour moi, c'est quand même le signe d'une bascule très profonde en Allemagne, et une bascule qui, peut-être un peu plus lentement, est en train de s'opérer à Bruxelles aussi. Vous vous rappelez que le soir de l'élection américaine, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est fendu d'un tweet pour le féliciter et pour dire qu'il fallait absolument que l'Union européenne et les États-Unis collaborent, et que d'ailleurs on pouvait trouver un arrangement. Et en fait, le modèle qu'avait von der Leyen et la Commission, ou les institutions européennes de manière plus générale, c'était de reproduire ce qu'on avait fait avec Trump 1. C'est-à-dire, en gros, avoir une négociation commerciale amicale, s'engager à acheter plus de soja, plus de gaz naturel, peut-être plus d'armement, en échange de quoi on trouverait un arrangement amical sur les tarifs douaniers.
Ça restait transactionnel et pratiquement, j'allais dire, chaleureux.
Voilà, c'était le modèle qu'on avait vu fonctionner non seulement en bilatéral entre l'Union européenne et les États-Unis, mais qui avait aussi fonctionné entre la Chine et les États-Unis. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise lecture des changements entre Trump 1 et Trump 2, et qu'on est en train de réaliser la profondeur de ces changements. La radicalisation à la fois sur le plan intérieur qu'on observe, mais la radicalisation aussi sur le plan extérieur, que ce soit des questions de sécurité et de défense, on pourra peut-être en parler, mais aussi sur le champ économique, et là on est en train de voir tout ça se dérouler sous nos yeux.
Christian Saint-Etienne, est-ce que dans le même temps, c'est pas un peu simpliste de dire qu'une guerre entre les États-Unis et l'Europe, une guerre commerciale, hein, j'entends, se dessine, est en train de se dessiner? On sait bien à quel point ces deux économies sont aussi largement imbriquées, à quel point des entreprises françaises participent largement à l'effort économique américain, et inversement d'ailleurs. Est-ce que ça a même du sens de dire que deux blocs, si je caricature, pourraient se mener une guerre commerciale dans le temps?
c'est de la folie. On a un exemple historique. En juin 1930, les États-Unis votent le tarif Hollis-Smoot, donc qui augmente massivement les droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. Alors, on a des comptes rendus d'historiens américains de l'époque et puis ultérieurement qui écrivent que les États-Unis, à ce moment-là, sont terriblement surpris que les pays en face d'eux répondent. Et ça va être le début de la guerre commerciale donc des années 30. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la crise d'octobre 29 aurait pu être contrôlée. Après tout, on a contrôlé pire avec l'effondrement des banques américaines en 2008-2009. Donc d'ailleurs, à cette époque-là, on avait retenu la leçon de 1929. Mais ce qui va planter l'économie américaine avec cette guerre commerciale, c'est que le commerce mondial en valeur, les chiffres sont très impressionnants. Entre 1929 et 1933, le commerce mondial en valeur baisse de 60%. Donc c'est un effondrement total. Et comme c'est pas le sujet qu'on traite ce soir, mais comme au même moment les Américains mènent une politique monétaire qui est contraire à leurs intérêts, le taux de chômage aux États-Unis va monter à 25%. Donc c'est une crise qu'on connaît avec les travaux de Steinbeck et autres sur la crise américaine. Donc c'est une crise d'une violence inouïe. En Europe, ça a joué un rôle clé dans l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Donc, est-ce que on pourrait verser dans un délire de cette ampleur ? Si, quand les Européens, un peu comme disait Shine Valley, pensaient qu'on allait pouvoir se mettre d'accord en disant « bah, tu me taxes 26 milliards d'euros, je te taxe 28 milliards de dollars et puis on va boire un coup après », si c'est pas ça, et si quand on taxe le Bourbon, il dit bah, « tu me mets 50%, je t'en mets 200 », si on répond, on peut assez vite se retrouver dans le scénario des années 30. Donc, oui, le risque est considérable. Mais surtout, ça c'est sur le plan commercial, mais surtout sur le plan stratégique, c'est insensé. C'est le rêve absolu de la Chine qui se produit actuellement. Ils auraient, si le bureau politique du Parti communiste avait eu un rêve un soir de Noël en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bousiller l'ordre mondial, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Union européenne et les États-Unis se cognent les uns sur les autres.
Ils n'auraient pas rêvé mieux.
Ah, de ce point de vue, Trump est le huitième membre du bureau politique. Hein. Ils sont sept, c'est le huitième objectif. Et alors Poutine est aux anges, puisque on l'évoquera peut-être après. Ce qui se passe aussi, bien sûr, c'est qu'on avait un ordre international qui était contesté et que les Chinois voulaient faire évoluer. Mais Trump ne veut pas faire évoluer cet ordre. Vous savez, on va l'évoquer peut-être. Il imagine un monde coupé entre divers empires où chacun fait ce qu'il veut dans son coin. C'est-à-dire que dans cette vision-là, la Russie peut s'installer en Ukraine, la Chine peut prendre Taïwan et lui, il peut prendre le Canada, le Groenland, le Mexique et dicter sa politique à l'Europe. Donc, on est vraiment dans une situation qui est extrêmement dangereuse sur le plan géostratégique.
Shine Valley, vous évoquez il y a peu la différence entre Trump 1 et Trump 2. C'est vrai que Trump 1, il faut rappeler que les tarifs douaniers étaient ciblés sur quelques produits. Hein. Je pense évidemment à l'acier, l'aluminium, le secteur automobile. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est l'ensemble des produits qui sont visés par le président américain.
Oui, et on va arriver en avril au moment où il a promis l'introduction de nouveaux tarifs douaniers. Et notamment, il a promis quelque chose qui est très surprenant pour nous, Européens, mais qui pourrait vraiment marquer une escalade violente. C'est de considérer que la TVA est une barrière non tarifaire. Et donc, du coup, qu'il est juste d'imposer 20% de tarifs douaniers sur tous les biens européens qui rentreraient aux États-Unis en compensation de cette TVA qui est imposée en Europe. S'il fait ça, il s'expose mécaniquement à une réponse légitime.
Je me permets de vous couper sur ce point-là. Est-ce que ça a du sens économiquement, cette fois-ci, de considérer, du point de vue de l'extérieur de l'espace économique européen, que la TVA est une sorte de tarif douanier ou c'est même pas fondé J'allais dire théoriquement.
Non, c'est pas du tout fondé théoriquement. Il y a de nombreux travaux empiriques là-dessus. Il y a des accords de l'OMC d'ailleurs qui en débattent. Il se trouve aussi que certains États américains ont une sales tax qui est l'équivalent d'une TVA. Donc c'est une idée assez farfelue, mais qui est très ancrée.
Si je peux m'insérer juste pour expliquer, quand des Américains vendent des produits en Europe, ils vont payer la TVA, mais les entreprises françaises ou allemandes qui vendent en Europe payent la TVA. Donc de ce point de vue,
il y a un régime d'égalité sur ce point-là.
Voilà.
Mais c'est important de signaler ce point-là, parce que s'il fait ça, on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des petits tarifs douaniers réciproques, comme ceux qu'il a évoqués, mais on rentre dans une escalade majeure à laquelle l'Union européenne devra répondre. Et il se trouve que, puisque nous importons moins de biens américains que les États-Unis importent de biens européens, nous devrons, pour avoir le même effet, imposer des tarifs douaniers supérieurs à ces 20% que lui-même imposera sur les biens européens. Et donc, on rentre dans une escalade potentiellement sans fin. Et là, je vois un point de dangerosité extrême. Je pense que ce qu'il est important de comprendre, pour comprendre la psychologie de Trump 2 par rapport à Trump 1, c'est qu'il a été convaincu notamment par deux personnes qui sont devenues influentes dans, j'ai envie de dire, la nouvelle doctrine Trump, qui sont Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, et Steven Miron, qui est le chairman du Council of Economic Advisors, qui sont deux personnes de marché, qui, eux, sont pas du tout des spécialistes du commerce international et pensent plutôt et raisonnent plutôt les équilibres mondiaux en termes de taux de change. Et eux, leur analyse, c'est que le dollar est structurellement surévalué. Et que donc, on peut utiliser les tarifs commerciaux pour rééquilibrer ça, mais que fondamentalement, ce vers quoi il faut tendre, c'est un accord multilatéral qui viserait à déprécier le dollar et à apprécier d'abord le renminbi chinois, mais aussi l'euro, le yen, etc. Et donc, je pense que cette doctrine-là pousse Trump à croire qu'il y a une injustice fondamentale dans la force du dollar qu'il faut corriger par cette politique commerciale ultra agressive.
Alors, au sujet justement de la force du dollar, un point de vue exprimé hier dans l'émission C'est Politique sur France 5.
Les États-Unis sont obligés de passer à ce qui est l'arme nucléaire en économie, c'est la guerre monétaire. Donc le but du jeu, c'est que les États-Unis détruisent la compétitivité chinoise comme ils ont détruit la compétitivité japonaise dans les années 80, parce qu'on a appelé à l'époque l'accord du Plaza en 1985, où les États-Unis ont forcé le Japon à réévaluer leur monnaie de 40%. Tout le but de jeu de cette guerre commerciale, c'est pas du tout de squeezer le Canada ou le Mexique. C'est de faire en sorte que cette année, le dollar soit très fort, puisque vous faites rentrer des impôts supplémentaires vers les États-Unis, de manière à dire que les monnaies du reste du monde sont sous-évaluées et les forcer à se réévaluer. Et là où ça ne marche pas du tout, c'est que M. Trump, comme je vous l'ai dit précédemment, vient de casser la confiance, et que le dollar, au lieu de monter sur toutes ces annonces en disant « c'est parfait parce que les États-Unis vont rentrer des tarifs douaniers supplémentaires », en fait, le dollar tombe parce que les marchés disent il va y avoir de l'inflation, il va y avoir un ralentissement de la croissance américaine et donc je ne veux plus du dollar.
D'un mot, Christian Saint-Etienne, parce qu'il faut qu'on passe à la riposte. Est-ce que vous êtes d'accord avec David Bavrez, investisseur et essayiste, par ailleurs chroniqueur pour l'Opinion, lorsqu'il dit que ce qui se joue fondamentalement, c'est d'abord et avant tout la guerre monétaire?
Oui, mais celle-là aussi, c'est étrange. Du point de vue de Trump, Make America Great Again, et avec un dollar faible dans le commerce international, ça va donner une puissance à la Chine, ça va l'affaiblir un peu sur le commerce, mais ça va jouer à la marge parce que il faut toujours se rappeler que si on dit que les États-Unis sont la première puissance mondiale, c'est en termes de production de biens et services, mais uniquement en production manufacturière, c'est la Chine qui est la première puissance mondiale. Elle assure entre 28 et 29% de la production manufacturière mondiale. Elle a des réserves qui plus est, il y a des comportements du gouvernement chinois qui sont inacceptables, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge des salaires d'entreprises comme Huawei où ils font des prêts sans intérêt ou voire qui peuvent être annulés. Donc il y a une compétition qui n'est pas équitable et donc les Chinois ils peuvent résister à 10 ou 15%. 5% de hausse du renminbi, mais surtout, à ce moment-là, ça leur donnera une capacité d'action au plan international plus forte. Donc, c'est étrange, quand on veut être une grande puissance, de commencer par dévaluer sa monnaie. Le problème des États-Unis, c'est plutôt de réindustrialiser et de se redévelopper, ce que faisait Biden, c'est-à-dire que la politique de Biden, du point de vue de la puissance américaine, était très bonne. Il avait mis en place une politique pour que la transition écologique se fasse avec de la production de biens et services américains. Et Trump est en train de casser ça aussi, c'est-à-dire que le type est totalement incohérent, il est en plein délire.
Alors comment peut-on riposter? Comment l'Union européenne peut-elle riposter? Vous écrivez, Shaheen Vallée, dans votre note, il est urgent que la Commission européenne identifie l'ensemble des exportations de biens et de services américains qui pourraient faire l'objet d'une riposte massive. Expliquez-nous à quoi ça peut servir.
Je pense que tout ce débat sur les tarifs douaniers se concentre beaucoup sur les biens. Je pense qu'on a un intérêt à déplacer le débat sur les services. Il y a deux grandes catégories de services sur lesquels on a des leviers très puissants. Les premiers sont les services numériques. Pour dire les choses très, très simplement, l'Union européenne pourrait décider demain d'interdire Instagram, Facebook, Twitter, X, et de contraindre l'accès...
C'est la population qui va être contente, hein.
Écoutez, il y a déjà des substituts à toutes ces grandes plateformes, et donc je pense qu'aujourd'hui ce sont des plateformes qui sont dominantes parce qu'elles sont installées. Je pense que la jeunesse qui est aujourd'hui sur Instagram sera assez vite sur TikTok le jour où on interdira Instagram, et sentira pas tellement la douleur passer. Donc je pense qu'on a ces leviers là. On a un levier fiscal aussi, c'est que la plupart de ces grandes multinationales américaines ont en fait utilisé l'Union européenne comme un paradis fiscal dans lequel loger leurs revenus internationaux pour ne pas les faire taxer aux États-Unis. Donc ça nous donne un poids. Si on décidait d'agir de manière forte, il faudrait qu'on soit unis là-dessus. Et enfin, vous l'aviez un peu évoqué, il y a les services financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargne européenne est utilisée par les fonds d'investissement américains, les banques américaines, pour financer l'économie mondiale. On pourrait décider de restreindre l'accès des banques américaines, des gestionnaires de patrimoine américain à l'épargne européenne. Donc on a beaucoup de leviers qu'on s'est interdit d'utiliser, en partie pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, parce qu'on reste prisonnier de cet ordre multilatéral et de l'idée selon laquelle, à des mesures commerciales, il faut répondre par des mesures commerciales. Je pense que la panoplie et l'arsenal qu'on pourrait mobiliser est beaucoup plus large que ce qu'on pense, et je pense qu'il faut réfléchir de manière très active à utiliser ces outils-là. J'en rajoute un dernier, qui est la commande publique. Et je l'évoque parce que c'est un outil que les Canadiens ont utilisé en réponse aux tarifs douaniers américains, et c'est un outil très puissant.
C'est-à-dire prioriser particulier...
Les Canadiens ont dit très simplement, notamment le gouverneur de l'Ontario a dit, nous dépensons, la province de l'Ontario dépense 30 milliards de dollars par an de contrats publics, les entreprises américaines ne seront plus autorisées à soumissionner à la commande publique canadienne. Si on faisait ça en Europe, ce serait un coup de semonce très important, et on en a tout à fait les moyens. C'est un changement de doctrine très profond, puisque pour nous, c'était dans l'idée du doux commerce, comme vous disiez, et de la concurrence pure et parfaite. Il fallait encourager ce genre de concurrence. On a aujourd'hui les moyens de contraindre fortement les Américains, et je pense que ça aurait des effets très puissants.
Christian Saint-Etienne, agir sur les services, c'est le bon point d'entrée pour riposter face à Donald Trump?
Alors, si vous me permettez, je voudrais d'abord pointer le fait que en 2018 comme en 2025, la Commission européenne a décidé de répondre aux tarifs de Trump en ciblant un certain nombre de produits américains qui, en retour, automatiquement cible les produits français. C'est-à-dire que quand on cible Bourbon, on peut s'attendre à ce que, connaissant Trump, il va cibler les vins, champagne et puis par extension fromage français. C'est-à-dire que la France se retrouve en première ligne. C'est en partie lié à l'affaiblissement français et au fait que nous sommes pas assez présents au niveau européen et que nous ne prenons pas assez garde à la composition des mesures de rétorsion de l'Union européenne face aux États-Unis. On aurait dû exiger plutôt, effectivement, de prendre en compte les services. Si ce n'est que là aussi, on se retrouve face aux Allemands. Alors, les Allemands ont fait un choix stratégique. Toute l'Europe a raté la révolution numérique. depuis 20 ans, depuis 30 ans même. Donc, les GAFAM sont apparus. Face à eux, les Chinois ont été capables de développer l'équivalent. Face aux GAFAM, il y a les BATHX chinois. Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi. Et donc, les Américains et les Chinois se battent à la fois comme deux géants militaires et stratégiques sur le plan militaire, avec un effort militaire colossal de la Chine. Enfin, il y a très peu, de mon point de vue, d'informations en Europe sur la montée en puissance de la marine de guerre chinoise qui préoccupe énormément les Américains. Donc, on a un contexte où les Allemands, ayant raté la révolution numérique comme les Français et les autres Européens, ont fait le choix, il y a un peu plus de 5 ans, avant le Covid, mais ça s'est accentué pendant le Covid, de brancher l'industrie allemande sur les providers de numérique américains.
Les fournisseurs numériques américains.
Et donc, les Allemands ont fait des alliances avec les grands GAFAM. Et notamment, il y a une énorme alliance entre l'Allemagne et Microsoft, mais également AWS, qui est la branche cloud de Amazon, est très présente en Allemagne, ainsi que Google.
Donc, les Allemands partout en Europe, plus en Allemagne. Aujourd'hui, le cloud européen est fondamentalement dépendant d'AWS,
90% allemand,
pas plus l'Allemagne que la France.
Sauf que là où la France et les autres pays sont assez consommateurs, l'Allemagne a décidé de faire des coalitions avec les Américains pour développer sa propre activité dans ce domaine.
Donc, est-ce que vous nous dites en creux que taper les services, si je peux dire, en tout cas surréglementer les services avérés, ça va créer de la dispersion encore plus avant en Europe?
Ça veut dire simplement que les Allemands se sont débrouillés pour qu'on cogne sur des produits qui amènent les réponses sur l'alcool et les vins et le fromage, plutôt que de cogner sur le cloud, parce qu'ils auraient été touchés plus fortement. Alors, dans une seconde réponse, si Trump continue, d'ailleurs la France devrait peser pour qu'on arrête les taxes sur le bourbon en négociant avec les Américains en disant « si on arrête les taxes sur le bourbon, vous laissez tranquille nos vins mm-hmm. et nos champagnes ».
La France ne peut pas faire ça puisque c'est la Commission européenne qui négocie et qui est
seule. Oui, sauf qu'à un moment donné, il faut cogner sur la Commission européenne si elle continue de cogner sur la France.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Mais ça, on a enfin trouvé un point sur lesquels on n'est pas d'accord. Et donc, effectivement, si on veut être sérieux, sachant qu'en réalité, Trump, au départ, il se foutait du vin, du champagne et des produits de ce type, il est obsédé par les voitures. Il ne supporte pas que les Américains achètent des Mercedes et des Porsche alors que qui ne sont pas taxés aux États-Unis, alors que les Européens taxent à 10% les voitures américaines, mais personne veut acheter de voitures américaines en Europe. Elles correspondent pas à ce que les Français ou les Allemands ou les autres souhaitent. Donc on aurait pu imaginer d'avoir un accord en disant OK, tu mets 25% sur les voitures, on met 25% sur les voitures, nous ça nous gêne pas, on n'en importe pas. Et donc mais simplement à ce moment-là, c'était les Allemands qui étaient touchés. Donc les Allemands ont très bien œuvré pour que ce ne soit pas eux qui soient touchés. Mais si on passe à une deuxième étape, oui, il faut toucher les services. Et je termine sur un point, on a quand même un problème avec Trump. Il dit que le déficit entre l'Europe et les États-Unis, 500 milliards. Mais en fait, il confond les importations américaines de biens avec le déficit. Quand on prend biens et services, le déficit réel, il est de 50. Donc on a un président américain qui fait des erreurs de 1 à 10. C'est quand même le type qui a le doigt sur la plus grande armée du monde. Donc, qui fait des erreurs d'appréciation de cette ampleur, il y a quand même de quoi s'inquiéter.
Chaîne Vallée, je vous laisse exprimer votre désaccord. J'aurais une question ensuite pour Christian Saint-Etienne, notamment sur la dispersion que ce que vous suggérez pourrait être engendré. Chaîne Vallée.
Non, ce que je voulais juste dire, c'est sur les mesures de rétorsion. Je ne pense pas que la France soit particulièrement lésée. Il est vrai que les Américains vont cibler le champagne et les vins et vont tenter de diviser les Européens en prenant des mesures spécifiques qui sont de nature à les diviser. Mais l'Allemagne étant un plus grand exportateur que la France, l'Allemagne souffrira en réalité beaucoup plus des tarifs douaniers américains que la France. Donc moi, je suis pas sûr qu'il faille lire dans tout ça une grande manœuvre allemande contre la France.
Pourquoi dites-vous cependant que la France ne peut pas aller négocier pour elle-même et par elle-même cette question des tarifs douaniers, concernant le vin et le champagne? C'est illégal ou c'est pas dans la coutume?
Il se trouve que toute la politique commerciale a été européanisée. Et donc aujourd'hui, ces négociations commerciales renouvelables sont uniquement le fait
par la commission.
Et la compétence exclusive, j'insiste, parce que toutes les compétences de la commission ne sont pas exclusives, mais en matière commerciale, c'est une compétence exclusive. Et c'est très bien que ça le reste, parce que sinon, nous rentrerions dans une logique de marchand de tapis dans laquelle chaque État européen irait négocier en bilatéral avec les États-Unis des tarifs douaniers différents pour optimiser sa situation. C'est absolument contraire à l'esprit du marché unique et je pense que ça affaiblirait grandement notre pouvoir de négociation.
Et on entrerait dans la logique du marchand Christian Saint-Etienne, c'est ce que vous décriviez un peu plus tôt.
Alors, bon, comme vous voulez qu'on se frite un peu avec Saïd, on va y aller.
J'ai rien demandé.
Puisqu'on est d'accord sur l'essentiel. Alors, c'est exact que techniquement, c'est la politique commerciale est une des deux politiques européennes dans laquelle la Commission européenne a seule autorité. La politique commerciale et la politique de la concurrence. C'est pas le sujet du jour. Si elle essaye de se déverser dans tous les autres sujets que ces deux-là, c'est qu'elle s'est plantée dans les deux sujets qui étaient les siens. Elle a mis en place une politique de la concurrence qui a empêché l'émergence d'un certain nombre d'acteurs majeurs, notamment dans le numérique. Et elle a une politique commerciale qui a ouvert l'Europe à la Chine et elle réagit toujours très, très tardivement face à la Chine. On en voit les effets actuellement dans le domaine de l'acier. Mais si on regarde ce point, malgré tout, ne soyons pas naïfs. On peut parfaitement aller voir Trump et lui dire OK, parce que c'est un type qui, c'est pas un joueur d'échecs, c'est un type qui se prend pour le centre du monde, qui a un ego infini et qui adore qu'on vienne le caresser. Donc si on vient en lui disant écoute, champagne, tout ça, c'est quand même 4 milliards d'euros d'exportation, ça va mettre en chaos des dizaines de milliers de producteurs viticoles en France. Nous, le Bourbon, en fait, on s'en fout. Donc, si l'Europe... Donc, effectivement, il faudra revenir sur l'Europe. Mais si on va négocier en disant si l'Europe arrêtait de taxer le Bourbon, est-ce que tu nous laisses tranquille sur nos exportations de vin et de champagne? Et si Trump dit oui, on aurait quand même un lien pour retourner vers la Commission européenne en lui disant il faut évoluer sur ce point.
Oui, mais si les 27 faisaient comme nous, si les Allemands faisaient pareil, justement, avec leur...
Non, mais le problème, c'est qu'il y a une trop grande concentration pour l'instant sur les produits français. C'est-à-dire que dans les 28 milliards de produits américains, il y a une disproportion de produits français. C'est effectivement l'Allemagne qui est le premier exportateur. Et en proportion des mesures prises par Trump, pour l'instant, elle est moins touchée que la France. C'est pas normal.
Shane Vallée, d'un mot, parce qu'il nous reste une minute. Est-ce que tout cela peut se dérouler, peut se passer? Cette riposte peut s'organiser à cadre budgétaire constant?
Non. Cette riposte va coûter de l'argent. Je pense que un des éléments de la riposte, c'est aussi de préparer l'Europe à un rééquilibrage macroéconomique. Et pour revenir rapidement sur le propos de Bavrez plus tôt et la référence qu'il faisait aux accords du Plaza, je pense que ce qui se dessine, c'est un accord de type Mar-a-Lago dans lequel chacun devra faire quelque chose et l'Europe devra faire un compromis avec une relance budgétaire plus forte par l'investissement. La Chine devra faire un compromis en réévaluant son taux de change et en consommant davantage. Les États-Unis devront faire un compromis en consolidant budgétairement. Et cet accord-là, il me semble possible. Donc je pense que, malgré tout ce qu'on a dit de plutôt de nature hostile, il y a une solution coopérative possible à l'issue de tout ça. Et cette solution coopérative, peut-être qu'elle peut émerger dans le cadre d'une négociation au G7 ou au G20 en 2026. Je rappelle au passage que la France aura la présidence tournante du G7 au premier semestre 2026 et les États-Unis, celle du G20. Donc ça nous donne une fenêtre.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion qui a muté en débat. Shane Vallée, vous êtes chercheur en économie politique au Conseil allemand des relations étrangères. Christian Saint-Etienne, universitaire économiste et membre du Cercle des économistes. Merci à tous les deux.